colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition.
Merci de votre fidélité à cet événement. C'est le colloque éthique consacré à la crise du logement, à la crise de l'immobilier. Et pour conclure sur ce plateau, m'ont rejoint trois invités. Sophie de Menton, rebonjour.
Rebonjour.
Présidente du mouvement éthique. Vous étiez à l'heure sur l'introduction. Vous avez suivi, comme nous, les différents échanges, les débats. Et ce sera l'occasion pour vous de faire un petit bilan, finalement, de ce que vous avez pu entendre. Également, et restez avec nous, Philippe Loiselet. Bonjour.
Bonjour,
directeur général de Loiselet et d'Aigremont. Et à vos côtés, il y a Guillaume Poitrinal. Bonjour.
Bonjour.
Président de WO2, promoteur immobilier axé sur...
WO2, et je ne suis que cofondateur de WO2.
D'accord, on prononce WO2.
WO2, voilà. Wood Oxygen 2.
Voilà. Très bien.
Voilà. Concrètement, vous faites quoi ?
Nous sommes promoteurs immobiliers bas carbone, c'est-à-dire qu'on utilise principalement des matériaux ultra bas carbone comme le bois. Donc souvent, on nous confond avec un promoteur en bois. On remplace le béton par du bois. Aujourd'hui, très spécialisé sur les grands ensembles de bureaux en Île-de-France, mais aussi on fait un certain nombre d'ensembles mixtes, comme par exemple l'Aqua Boulevard qu'on va rénover. On fait des hôtels aujourd'hui également.
Il y en a à Courchevel en ce moment, qui
est en construction aussi. Avec des techniques qui sont très innovantes, qui permettent de gagner du temps, qui sont naturellement isolantes, puisque le bois est quand même un isolant très très reconnu, et qui sont très sympas à habiter, et donc qui rencontrent un certain succès locatif aujourd'hui, notamment avec les grands groupes du CAC 40 qui nous rejoignent.
Est-ce que ça brûle pas trop ? Pardon, mais
non,
j'ai brûlé
en fait,
la montagne. Mon immeuble a entièrement brûlé, il était en bois.
Vous savez, c'est comme dans la cheminée. Vous avez les petits segments, on brûle très très vite, et puis les très très grosses bûches, il faut beaucoup d'efforts pour arriver à y mettre le feu.
Bah moi, ils ont mis l'effort.
Nous, en fait, on utilise des énormes éléments de bois lamellé contrecollé croisé, qui sont des énormes éléments de plancher ou de mur, et qui sont mono-exposés à la flamme, qui vont brûler très tard, et très lentement. Alors, il faut finir par avoir des pompiers quand même qui viennent, mais qui bénéficient aussi de capacités d'auto-extinction. Ouais. Donc, ce ne sont pas des petits segments. Méfiez-vous, dans la construction bois, des petits segments. C'est ça qui brûle. Les petits poteaux, aux États-Unis, on utilise beaucoup le 2x8 inches. Donc, ça, c'est la maison en ossature, qu'on voit d'ailleurs souvent voler un petit peu. C'est pas du tout ce qu'on fait, nous. Nous, ce sont des murs très épais, en bois, qui viennent remplacer le béton.
Et en quoi est-ce que c'est... plus écolo ?
Alors d'abord parce que en fait le bois a une empreinte carbone inversée. Le bois c'est quoi ? C'est du CO2 absorbé par l'arbre. L'arbre casse la molécule de CO2, renvoie l'oxygène et garde le carbone. Le bois c'est du carbone prélevé de l'atmosphère. Et ça vient remplacer, ça vient se substituer à un matériau qui s'améliore, mais qui s'appelle le béton, qui est très émetteur. Le béton, on estime que c'est à peu près 12% des émissions de la planète. Pourquoi ? Parce que la réaction chimique qui fabrique du ciment, elle est en elle-même émettrice de CO2. Donc on a quelque part un matériau émetteur, de l'autre côté un matériau stockeur.
Et alors, est-ce qu'on détruit pas trop les forêts ? Vous avez tellement raison que je suis très inquiète parce
Vous avez raison d'être inquiète, mais en Europe, la déforestation est interdite. C'est-à-dire, à chaque fois que vous coupez un arbre, il faut en replanter un. C'est une obligation. Et donc, nous n'opérons que sur des forêts qui sont durablement exploitées, avec, à l'échelle de la forêt, l'assurance que le stock de bois, à l'échelle de la forêt, le stock de bois va continuer à augmenter. C'est même pas qu'il diminue, c'est qu'il continue à augmenter. C'est-à-dire qu'on va prélever moins que la repousse à l'échelle de la forêt. En faisant des coupes de bois, vous pouvez aussi adapter la forêt au réchauffement climatique, ce qui est un des grands sujets. C'est-à-dire que vous pouvez replanter des espèces qui vont résister à l'augmentation
de la
température. Donc, il faut exploiter la forêt. Tous les gens qui vous disent qu'il faut laisser la forêt crever, honnêtement,
mais alors,
c'est terrible.
Est-ce qu'on utilise, nous, notre propre bois ? Parce que, là, évidemment, je pensais à la forêt amazonienne, mais je suppose que le bois est un des seuls matériaux qui ne s'importe pas. On prend que notre propre bois
France. On prend du bois européen. Le bois que j'utilise, il vient du plateau des Mille Vaches, il vient du Morvan, c'est principalement de l'épicéa. On peut faire aussi du bois lamellé contrecollé avec du bois de la forêt des Landes. Il n'y a pas de sujet de ressources. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources en bois.
Et la forêt française augmente.
Et il vaut mieux utiliser la forêt pour pour des matériaux de construction qui vont stocker le carbone dans la très très longue durée, plutôt que d'utiliser la forêt pour se chauffer. Mmh. Voyez, donc c'est parce que quand vous vous chauffez et que vous brûlez, pour le coup, réaction
là,
inverse,
CO2.
Réaction inverse, voilà.
Évidemment.
Le carbone se remarie avec l'oxygène et là, ça fait du CO2.
Okay. Pourtant, on pousse à brûler du bois.
Pourtant, on pousse à brûler du bois. Ouais. Mais le mieux, l'énergie la plus propre, la plus pilotable et la plus simple, et celle où la France a de l'avance, ou avait de l'avance, ça s'appelle le nucléaire. Et c'est quand même beaucoup plus simple que tout pour lutter contre le réchauffement climatique.
Alors, tous ces sujets sont évidemment intéressants. Pour autant, il y avait un sujet fil rouge aujourd'hui, c'était comment sortir finalement de la crise de l'immobilier, comment sortir de la crise du logement, avec effectivement cette conclusion qui a été baptisée « normes énergétiques, l'ultime coup de massue ». Donc, je trouve intéressant de pouvoir vous interroger sur la question, sur savoir finalement ce que vous pensez des différentes normes. C'est un mal français peut-être, mais sur cette question-là.
Vous avez tout à fait raison, et c'est vraiment l'objectif de cette conclusion, mais je voudrais revenir sur le fait que ce qu'on a entendu était passionnant, qu'on ne le sait pas, qu'on a des professionnels qui savent quoi faire, qu'on a un monde politique ignare. Et quand je dis ignare, c'est pas pour les critiquer individuellement, ils les ont exceptionnellement intelligents. Ignare. Ils savent pas ce que c'est qu'une boîte. Ils savent pas ce que c'est que les secteurs d'activité. Ils interviennent dans l'immobilier, on l'a vu, et on reviendra là-dessus. N'importe comment. On fait une loi, on défait pas l'autre. On aide la construction. Et puis finalement, on ne l'aide plus. Donc les logements subissent le contre-coup. Et donc, je voudrais, s'il y avait un objectif à ce colloque et que vous me disiez ce que vous en pensez, c'est que, d'abord, il faut pouvoir convaincre les hommes politiques d'écouter les professionnels, ça c'est la base. On n'en sortira jamais s'ils n'écoutent pas les professionnels dans tous les domaines.
Oui, c'est pas vrai que dans l'immobilier.
Mais non. Et donc là, j'aimerais bien qu'on essaie que vous. Leur message,
partir,
qu'est-ce que vous dites aux hommes politiques aujourd'hui qu'il faut faire pour les normes et raisons de la crise du logement?
Il faut que les hommes et les femmes politiques se départissent de cette idée que plus on crée de complexité administrative et plus on va aboutir à de la justice sociale ou à la correction de déséquilibres qui peuvent survenir. Ou à la moralisation de la profession de syndic ou à la moralisation de la profession de promoteur immobilier. La complexité administrative est l'ennemi, en fait, de toute cette justice sociale ou toute cette moralisation qu'on veut nous imposer. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, l'ultra-détail empêche, d'abord, le bon sens, empêche la transparence, empêche les gens de venir voter parce qu'ils comprennent pas, toujours pas, les lois de majorité dans des copros, qui d'ailleurs n'arrêtent pas de changer. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Quand vous achetez un appartement, vous avez remarqué que depuis 10 ans, on vous donne à peu près 50 cm de documentation.
Que personne ne lit.
Voilà l'exemple de la complexité administrative stupide.
Et puis c'est pas très écolo en plus.
On aurait juste obligé le notaire à indiquer si oui ou non il y a du plomb, si oui ou non il y a ceci, sans vous obliger à filer tous les trucs. Ça aurait été tellement plus simple. Mais la simplicité, ça fonctionne pas. Je vais revenir sur cette histoire de normes et notamment de normes thermiques. Et je suis très, très amusé et intéressé que vous parliez de thermique. Parce que vous parlez de thermique, vous parlez probablement du fameux DPE, hein, et puis de toutes les normes qui sont derrière. Or, le sujet de la planète, c'est pas le thermique. Le sujet de la planète, ce sont les émissions de carbone. Ouais. Et donc, il va falloir à un moment donné qu'on change complètement notre logiciel. Il se trouve que... Et là, je pense que les lobbies français, des lobbies français, ont merveilleusement activé le thermique en disant « il faut surisoler tous nos appartements et sinon, bah, ça va pas parce qu'en fait, on a des passoires thermiques et alors c'est terrible socialement, les passoires thermiques et en fait, c'est terrible pour le climat, les passoires thermiques. » Mais de la passoire thermique au climat, je vais vous dire, il y a beaucoup de chemin.
Incroyable.
Parce que si, pour isoler et gagner quelques kilowattheures d'énergie décarbonée, c'est-à-dire nucléaire, je vous mets des matériaux qui, eux, sont très émetteurs de CO2, dans leur fabrication, dans leur transport, eh bien, j'ai tout raté.
Bravo, j'ai tout raté.
Donc,
c'est pas ça.
Le véritable sujet, c'est de poser dans ce pays des objectifs de décarbonation. On est tout à fait d'accord pour les suivre, mais qu'on foute la paix aux gens sur les modalités pour y arriver.
Mais
qu'on foute la paix aux gens pour les modalités sur, pour y arriver.
Est-ce qu'il vous écoute, Guillaume ?
Il m'écoute une fois de temps en temps, mais ensuite, après, derrière, il y a des gens, il y a des industriels qui arrivent et qui expliquent. Je vous donne un exemple qui m'amuse beaucoup. Dans les DPE, on aurait pu vous dire, bon, en plus, on aurait pu le faire simplement. Voilà, on est venu vérifier l'isolation thermique de votre bâtiment.
C'est quoi, comment DPE, est-ce qu'on pardon
le diagnostic de performance environnementale. Les fameux, les classes A, B, C, D jusqu'à F et G. F et G, vous êtes une poubelle environnementale, oui. Et vous n'avez plus le droit de louer. C'est un peu embêtant. C'est ce qui va nous supprimer 300 000 logements en région parisienne à la location en plus. Bon, voilà, une petite boulette. Mais dans le DPE, on aurait pu vous dire, écoutez, on vous met un petit appareil qui est là, on va couper le chauffage, il fait 20 degrés, 5 degrés dehors, on va couper le chauffage et on va mesurer si oui ou non votre appartement est isolé. Truc tout simple. Eh bien non, on ne fait pas ça en France. En France, on va vous dire, racontez-moi l'épaisseur de votre isolation.
Ouais.
Vous pouvez avoir un trou dans la façade qui fait que vous n'êtes plus étanche à l'air, ça compte pas trop. D'accord ? En fait, on va jamais vérifier les trous. On vérifie pas l'étanchéité à l'air. On vérifie pas l'isolation. On vous prescrit du matériau. Et alors, dans la prescription de matériaux, j'en ai trouvé une excellente, l'interdiction dans le DPE des isolants minces. En fait, il y a des inventeurs qui ont inventé des isolants plus minces. C'est pas mal les isolants minces, parce que quand vous bouffez 5 cm dans un appartement, vous avez vite fait de vous supprimer 1 ou 2 mètres carrés, ou 3 mètres carrés. En région parisienne, 3 mètres carrés, ça vaut de l'argent. Ça vaut de l'argent au prix du mètre carré. Eh bien là, on n'a pas le droit dans les DPE d'utiliser les isolants minces. Pourtant, il y a une entreprise qui s'appelle Actis qui a dit, eh bien, les isolants minces, c'est aussi efficace, ils l'ont démontré, que les isolants épais que font nos amis de Saint-Gobain, qui sont des gros isolants dans le truc. Ils sont même allés jusqu'à la Cour de cassation. Ils ont obtenu que cet isolant mince puisse fonctionner pour MaPrimeRénov. Vous voyez le truc, les subventions gouvernementales qui nous coûtent des milliards. Eh bien, à l'heure à l'actuelle, ils ont eu gain de cause en cours de cassation. À l'heure actuelle, vous ne pouvez pas utiliser d'isolant mince si vous voulez améliorer votre DPE.
Et je connais Actis, ça fait des années qu'ils se battent là-dessus.
Cour de cassation en 2019. Et ça fait 5 ans. Ouais. Ils ont eu gain de cause en 2019. Tout ça pour vous expliquer qu'en fait, toute cette espèce d'avalanche normative de complexité, une très grande partie, quand on vous dit il va falloir faire ça dans le plus fin détail, quand on vous explique, etc., une très grande partie de cela est dictée par nos lobbies industriels. Et finalement, l'innovation n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire qu'on est devant, aujourd'hui, un certain nombre de situations de quasi-monopole et l'innovation n'a pas lieu d'être.
Ouais,
donc cette complexité administrative, oui, Sophie de Menton, il y a le personnel politique, oui, il y a le personnel administratif derrière,
mais il faut que nous,
entreprises, on balaye devant notre porte, parce qu'en fait, nous sommes rentrés dans toutes les commissions techniques, nous sommes rentrés dans tous les ministères, nous avons des lobbyistes à l'Assemblée nationale, nous, entreprises, et donc nous créons cette propre complexité administrative qui abat la France peu à peu, qui abat sa capacité d'innovation, qui abat sa capacité de création d'entreprise.
Question importante. Comment fait-on ? Parce que je disais au début qu'on s'en sortirait uniquement si on consultait les professionnels. Et les lobbies, c'est la défense des entreprises par rapport à un monde qu'ils ne connaissent pas. Et donc, comment fait-on pour trouver le juste milieu entre des lobbies qui vont prêcher pour leur paroisse, y compris des gros d'ailleurs au détriment de petits, comme les isolants minces, quand vous avez Saint-Gobain en face de vous, voilà. Et donc, comment on fait ?
Eh bien, on passe d'une obligation de résultat et on abandonne le détail et la prescription la plus fine administrative de ce qu'il faut faire. On vous dit, voilà, l'objectif, c'est tant de kilos de CO2 par mètre carré de votre appartement.
Et
vous vous débrouillez. Et vous vous débrouillez.
Peu importe comment on le fait.
Voilà, vous débrouillez. Vous avez décidé de changer de passer à la pompe à chaleur et votre pompe à chaleur, finalement, elle consomme quasiment plus d'électricité. L'électricité, elle est décarbonée, donc votre empreinte carbone, elle a été baissée. Eh bien, on vous fout la paix sur l'isolation thermique. On vous fout la paix parce que en fait voilà, vous avez investi dans autre chose. C'est un choix que vous avez fait.
Ils peuvent accepter ça ?
Mais bien sûr, c'est tellement plus simple.
Ils peuvent l'accepter.
Mais c'est tellement plus simple. Mais il faut qu'ils changent un peu leur prisme.
Ce serait la décision de qui s'ils acceptaient ça ?
Oui, il faut un alignement entre le président de la République, le Premier ministre, une majorité à l'Assemblée et puis un ministre diligent.
D'accord.
Bon,
on n'y est pas, hein.
Ouais. Non, mais ça peut arriver.
Ouais, il faut que les
bon sens, il faut jamais désespérer du bon sens.
Bien sûr.
Et puis le bon sens, il va nous être imposé par tout de même nos petites difficultés en matière de finances publiques, qui vont nous obliger à trouver des idées.
Oui,
hein,
des
on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Demain, on dira, on n'aura plus de ressources fiscales. Parce que, bon, tout ça, mais il faudra bien avoir des idées.
Guillaume Poitrinal, il y a quelque chose d'intéressant quand on a échangé ensemble aussi pour préparer cette conclusion sur le colloque. Vous me disiez qu'au-delà des normes, souvent le problème structurel de la production de la loi aussi en France.
Oui.
Le temps qu'il faut pour effectivement légiférer, décider, et puis pour que ce soit imposé. Là aussi, vous voudriez remettre
les
choses en
question. Vous avez tous les deux des choses à dire là-dessus, d'ailleurs.
Oui.
Les consultations qui servent à rien pendant des années... où on attend l'issue d'un texte dont on parle, qui est revu, réécrit, machin, pour au final obtenir quelque chose de très différent de ce qui était lancé à l'origine.
Le process, il est assez simple. Un ministre, en général, d'abord, il veut mettre sa loi sur son nom sur une loi, voilà, dans le truc. Bon, il arrive, la loi Lemeur, la loi truc, de Normandie, machin truc. Il arrive avec 80 articles. Quand la loi ressort de l'Assemblée nationale, il y en a entre 200 et 300 des articles de loi. D'accord ? Et ça, c'est la première étape, puisque derrière, on va avoir des décrets d'application qui vont être encore plus détaillés. Donc, très clairement, nous sommes dans un monde qui favorise l'inflation du nombre de mots. En fait, il y a deux choses qui tuent ce pays.
Supprimer le CO2
d'un côté,
des mots.
Le nombre de mots. De textes obligatoires. Je rappelle que le sénateur Doligé a indiqué, et c'était déjà il y a 10 ans, mais qu'il y avait autant de mots obligatoires en France que dans toute l'Europe réunie,
dans toute l'Europe réunie.
Et c'est, voilà.
C'est comme les communes.
Et c'est comme les communes. Il y a autant de communes en France que dans toute l'Europe réunie aussi. Surtout que depuis que l'Angleterre est partie, ça fait moins de comparables. Et puis, deuxièmement, l'inflation des autorités. Nous, on crée des autorités tout le temps. Donc, on crée des niveaux de collectivités locales tout le temps. On crée des autorités administratives. On crée des autorités administratives indépendantes, y compris dans les préfectures. Aujourd'hui, l'autorité environnementale, qui s'appelait la DDT, Direction des territoires, elle existe encore. Hein. Le démembrement du ministère de la transition écologique chez le préfet, il existe encore. Mais on a rajouté une autorité environnementale sur laquelle le préfet n'a plus de tutelle. Donc en fait, nous démultiplions. Le préfet, il n'a pas disparu, il existe. C'est juste en plus. Hein, quand on vous dit le PLU est entre les mains de la communauté de communes, c'est-à-dire en Ile-de-France, l'établissement public territorial, Paris-Ouest La Défense, par exemple, un truc qui fait les deux tiers du département, qui va de Courbevoie jusqu'au fond des Hauts-de-Seine, en fait, on n'a pas supprimé le maire. Donc vous avez une communauté de communes qui va décider de la modification de PLU de Nanterre. Donc la modification de PLU de Nanterre, c'est une communauté de communes présidée par le maire, formidable maire de Courbevoie. Mais on n'a pas supprimé. En fait, on rajoute à chaque fois. On sédimente, on démultiplie les couches. Et quand un promoteur veut faire du logement et qu'il y a une petite modif du PLU pour faire une belle opération de logement, eh bien il va falloir qu'il obtienne son permis de construire chez monsieur le maire. Et puis ensuite, ou avant plutôt, ça modifie de PLU dans la communauté de communes. Donc ça va lui faire deux étapes. Et pour peu qu'il soit dans une opération d'intérêt national, c'est-à-dire par exemple le Grand La Défense, qui est une opération d'intérêt national, là il va falloir qu'il aille voir le préfet de département, car dans une OIN, c'est le préfet de département qui, sur instruction du maire, signe les permis de construire.
Et quand ils ne sont pas d'accord ?
Et quand ils ne sont pas d'accord, on ne sait jamais. Il y en a... Aucun qui peut prendre la décision tout seul, ils sont obligés d'être tous d'accord. Si un seul bloque, vous pouvez attendre. Vous pouvez attendre. Et ça vaut pour tout. Ça vaut pour la sortie de centre commercial Vélizy 2 sur la 86, 25 ans. Il paraît que ça va se faire.
Oh là là, 25 ans
d'embouteillage. 25 ans de gens qui tournent, etc. dans le truc. Alors que c'est entièrement financé par le privé. Ça coûte zéro.
En fait,
la démultiplication des chefs, je pense, et des autorités, elle est aussi dangereuse que la démultiplication des textes. Elle est aussi ralentie, et là, tous les entrepreneurs, que ce soit des industriels, que ce soit le BTP, que ce soit des sociétés de services, vont vous dire la démultiplication des chefs, des autorités de contrôle, des autorités des instances de décision, c'est un des drames de la France.
Chacun tient à son pouvoir et veut détenir la décision.
Et chacun peut vouloir mettre le pouvoir de dire non. Mais vous le voyez aussi quand on fait un rond-point et qu'on vous dit, il y a de la région. Alors nous, par exemple, à Châtellerault, d'où je viens, on est dans la région Nouvelle-Aquitaine. La région Nouvelle-Aquitaine, elle est grande comme l'Autriche. Donc, quand vous êtes à Châtellerault, vous êtes un sud tourangeau. Donc, on vous a mis. Maintenant, on partage le sort des Basques avec les sud tourangeaux. Vous voyez, ça a vraiment culturellement énormément de choses à dire. On va même jusqu'à Limoges, quasiment. Hein, la région, elle est tellement énorme, quoi. Dans le truc, l'île de Ré, Limoges, les Basques, le sud de Tours,
bon,
tout ça est ensemble.
Bon, alors, on a dit ça. Dites-moi comment on fait pour transformer ça. Comment on fait ? Qui va pouvoir le faire ?
Ah oui, parce que l'objectif, c'est de trouver des solutions.
Mais oui.
Il faut simplifier la France et il va falloir s'attaquer non pas à quelques textes, quelques trucs, etc. Oui. Il va falloir s'attaquer à l'infrastructure française. C'est-à-dire...
Mais personne ne la maîtrise.
Il va falloir trouver des... Mais on sera obligé de le faire, Sophie de Menton. On va être obligé, à un moment donné, de se réformer.
Mais c'est quand ?
C'est-à-dire diviser par deux le nombre de collectivités locales. Et ça, il va falloir le faire. C'est-à-dire rapprocher, décentraliser la décision, qu'on n'ait plus à chaque fois, y compris monsieur le préfet, etc. Il faut décentraliser les décisions.
Est-ce que quelqu'un a essayé politiquement jusqu'à aujourd'hui, ça ? Essayé.
En fait, je n'ai pas compris pourquoi le président Macron avait reculé devant cette nécessaire, en fait, réforme de nos infrastructures politiques et administratives. Je n'ai pas compris. C'est le grand chantier à faire. C'est le chantier le moins cher à faire. Alors, vous allez déplaire probablement, parce que, etc. Mais faut arrêter. Je n'ai pas compris. Je pense qu'il s'est laissé embarquer dans un truc en disant, bah finalement, c'est la boîte de Pandore, c'est trop compliqué, et puis ça marche pas si mal, etc. La réalité, c'est que ça coûte énormément.
Alors,
à ce pays, plusieurs points de PIB.
Moi, j'ai une anecdote. Il se trouve que j'avais vu Brigitte Macron à l'Élysée et que je demandais ce type de questions basiques. Mais pourquoi est-ce que ça avance pas? Est-ce que le président... Et Brigitte Macron m'a dit, il rentre le soir... Il pique une colère en disant « ça fait 4 jours que je leur ai demandé, j'ai même pas de réponse ». Quand vous avez le président de la République qui réagit comme nous, entrepreneurs, c'est très très inquiétant. Et est-ce que ce n'est pas l'infrastructure du pays qui dirige le pays ?
C'est très compliqué. Je pense qu'en fait, moi, j'ai écrit un livre sur la complexité administrative qui s'appelle « Plus vite », qui est là, c'est tout à fait d'actualité, je le regrette. Et je pense qu'en fait, je faisais l'analyse dans ce livre que...
Formidable livre que j'ai lu, mais il y a combien de temps il était ? On le retrouve encore ?
J'ai écrit il y a 14 ans.
Oui,
voilà.
Mais on retrouve encore ?
Aux notes blanches, oui, bien sûr.
Vous
mettez Poitrinal sur Amazon, Poitrinal livre, et vous allez trouver mes livres voilà, sur l'écologie, sur la simplification, etc. Je pense qu'en fait, la simplification administrative française, elle a ça de singulier que, en fait, c'est moins la responsabilité. Souvent, on me disait c'est les hauts fonctionnaires qui foutent le bazar, etc. Les hauts fonctionnaires, y compris les préfets, ils souffrent aussi de cette complexité administrative eux-mêmes dans leur action, parce qu'ils sont là quand même souvent, sont les gens de bonne foi qui veulent promouvoir l'intérêt général, etc. Donc, ils souffrent aussi. Et en fait, c'est la combinaison. C'est vraiment une combinaison. C'est un jeu entre le pouvoir administratif, le pouvoir politique qui joue ce jeu-là, l'Assemblée nationale, et qui fait qu'en fait...
Et les lobbies.
et qui fait que, par exemple, le droit d'amendement à l'Assemblée nationale, il est extrêmement facile. On a un des droits d'amendement les plus sains, les plus faciles, qui fait aussi que, par exemple, il n'y a pas d'étude d'impact sur la complexité administrative qu'on va rajouter. On ne sait pas. Je me souviens très très bien, pendant la loi pénibilité, je me souviens très bien de députés socialistes me disant « Si j'avais su ce que on allait mettre dans le décret d'application de la loi pénibilité, vous vous souvenez, dans un hypermarché, si on met la bouteille au-dessus des épaules, c'est tant de trucs, tant de points, et puis encore plus haut, c'est tant de points, etc. Et tout ça doit être suivi dans le plus fin détail par le chef d'entreprise, sinon gare à lui. » Il me disait, je n'aurais jamais voté cette loi. Il me disait le député socialiste.
Et ça joue sur l'âge de la retraite, car il y aurait quand même une espèce de logique à ce qu'il y ait une pénibilité qui soit prise en compte pour l'âge de la retraite. Et c'est impossible, le MEDEF a essayé, etc. C'est impossible de complexité, on ne peut pas.
Alors ça, c'est un autre sujet. Ça pourrait peut-être faire l'objet d'un
nouveau
collègue.
L'âge de la retraite, oulala.
Sur la retraite, il y aurait des choses à dire.
Moi, j'ai quelques petits commentaires sur ce que j'ai entendu tout à l'heure à votre table ronde.
Oui,
il y a un sujet. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à produire ? Certes, la complexité administrative, on vient d'en parler. Les normes qui s'imposent à nous, qui font qu'on est obligé de faire une douche sans ressaut. Là, vous voyez, pour les handicapés, on est obligé de faire une douche sans ressaut. Moi, je me suis toujours dit, en termes de promotion immobilière neuve, aujourd'hui, résidentielle, partout en France. Bon, vu la faible occurrence des personnes handicapées auxquelles, quand j'étais promoteur immobilier, j'ai vendu, je pense qu'il vaut mieux donner 100 000 euros, voire 200 000 euros à chaque personne handicapée pour adapter son logement, plutôt que d'obliger tous les logements à avoir une douche sans ressaut. Douche sans ressaut, ça vous paraît idiot, c'est la douche à l'italienne, mais il faut faire les tuyaux chez le voisin du dessous. Alors il faut épaissir, si on épaissit, on perd des étages.
Sans
ce sont des douches à l'italienne, il n'y a pas de bac à douche. Le moins cher, c'est le bac de douche. Là, on fait pas le bac de douche.
Mais
en fait, on creuse le plancher pour qu'il y ait zéro différence de niveau entre le socle de votre douche. C'est techniquement très compliqué à faire. C'est un exemple parmi d'autres. Quand on dit maintenant en région parisienne, le rez-de-chaussée, c'est du parking à vélo, parce qu'il faut protéger les vélos, il faut les mettre à l'abri. Eh bien, c'est un appartement de moins sur 6 appartements. Donc, ça veut dire que vous avez, vous, chiffre d'affaires de promoteur, un appartement de moins à vendre. Donc ça veut dire qu'il faut augmenter le prix de tous les autres de 5 ou 10% pour faire ce parking à vélo. Mais personne n'a réfléchi comme ça. Quand on vous dit, promoteur immobilier, vous voulez faire de l'accession, vous allez mettre 30% de votre programme en logement social. Alors au début on dit, bah tiens, j'ai placé mon programme. Sauf qu'on ce qu'on vous dit pas, enfin si on vous le dit parce que vous êtes un pro, c'est qu'on va vous l'acheter 30 ou 40% moins cher puisque c'est du social. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos acheteurs réellement primo-accédants, ils vont mécéner le logement social d'à côté, puisqu'il faut que je vende plus cher pour équilibrer mon opération.
Équilibrer
le cadeau que je vais faire au logement social dans mon opération. Donc, tout
et
ça,
ils sont aussi bien, les logements sociaux, ou pas? Ils vous coûtent le même prix à faire?
Ce sont les mêmes. Parfois même, les logements sociaux sont mieux que l'accession. Mieux que l'accession. Parce que les bailleurs sociaux sont très exigeants sur le cahier des charges.
Après, dans les copropriétés, une espèce de... pas de bagarre, mais de mauvaise entente entre groupes, quoi, franchement.
Donc il y a cette complexité administrative, c'est sûr, mais il y a aussi de la fiscalité, les amis. Il y a beaucoup de gens qui, vous, moi, qui, parce qu'ils payent de l'IFI, si demain ils achètent un appartement pour le louer à des jeunes en co-living ou pour le louer ou des studios pour les louer, etc., si ils ont l'ensemble de l'impôt sur la fortune immobilière, l'impôt sur le revenu, les taxes qui sont dans le truc, le rendement c'est zéro. Vous pensez qu'on va attirer beaucoup de gens à faire de l'investissement immobilier avec un rendement de zéro? Zéro, zéro. Donc, il y a un problème fiscal, il faut quand même le dire. Là, ça a été dit, et je le souligne, c'est utile socialement d'investir dans du logement pour loger les jeunes, pour loger les gens qui ne peuvent pas acheter, c'est utile socialement.
Le statut du bailleur privé, on y revient.
Le statut du bailleur privé qui doit pouvoir faire du social. Les entreprises doivent pouvoir faire du social pour leurs employés. C'est pas possible. Les entreprises doivent pouvoir acheter des immeubles et les convertir en logement social pour leurs employés. Pourquoi pas? Il faut penser
différemment. Alors attention, parce que c'est une question intéressante à laquelle j'avais été confrontée. Sauf que vous louez un logement à vos employés, terminé pour s'en séparer.
Non, vous savez, le logement de fonction, ça marche comme le logement de fonction.
Parce que ça veut dire que si on s'en sépare, il quitte le logement proposé par l'entreprise, je ne vous raconte pas. On a eu un cas, c'est délirant. Enfin bref.
Et ça peut se légiférer probablement. Oui. En tout cas, pour conclure, il y a un dernier phénomène. 20% de TVA sur le neuf. Est-ce que quelqu'un a compris ce que ça voulait dire, 20% de TVA sur le neuf? Ça veut dire que, en fait, dans une décomposition de prix, vous avez des travaux. C'est normal que l'acheteur ultime paye 20% sur les travaux. On est tous d'accord. Mais vous avez du foncier. Vous avez du foncier. Et quand je fais de la promotion en Ile-de-France, j'achète le foncier 4 000, 5 000 euros sur les belles zones. Ça veut dire que j'ai 20% là-dessus. J'ai acheté du foncier, j'ai revendu du foncier et j'ai 20% de taxes. Et ça, c'est absolument pas normal. Il n'y a aucune valeur ajoutée. Je ne crée pas de valeur ajoutée en achetant du foncier et en revendant du foncier. Et bien pourtant, j'ai 20% de taxes. Ça
parce que l'État cherche de l'argent partout. Partout, partout. Et donc, dernière question, et c'est la conclusion, mais pour l'immobilier, pour tout ce qui arrive, etc., est-ce qu'il faut, vous allez me dire mieux, mais est-ce qu'il faut plus d'intervention du gouvernement ou moins d'intervention?
Moins.
Merci.
Le moins possible. Qu'il fixe des objectifs, qu'il libéralise l'action construire et qu'il détaxe. Et une fois qu'il aura fixé ces trois objectifs, je pense qu'on sortira rapidement de la crise qui est quasiment très particulière à la France par rapport aux autres pays européens.
Ouais.
On fixe des objectifs, mais par contre, on ne les embête pas dans leur démarche. pour atteindre les objectifs.
Et il faut absolument se désintoxiquer de l'État là-dessus. Et il faut que nous ne demandions pas, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, pas trop de lobby et pas trop demander à l'État. On a rédigé à Éthique, d'ailleurs avec Alain Madelin, les 10 commandements des chefs d'entreprise. Tu ne m'en diras pas auprès de l'État. Tout ce qu'il faut arrêter, et nous devons regarder autour de nous, nous sommes les premiers souvent à demander des aides.
De toute façon, quand l'État vous donne, il vous reprend d'une autre façon.
Vous voyez, la construction bas carbone, on a un label, on a créé une association, on ne demande rien à l'État, aucune subvention.
Bravo.
Alors qu'on fait des immeubles qui sont moitié moins polluants que les autres. Moitié moins polluants du point de vue du carbone. On a demandé zéro.
Et ça fonctionne.
Et ça fonctionne.
Et, bah
et on arrive à les vendre et à les louer.
C'est une note optimiste.
Voilà, exactement. Et ça fait du bien par les temps qui courent.
Ouais.
Merci à tous les trois
Merci
d'avoir
infiniment.
Participé à ce colloque. Merci Sophie.
Merci de l'avoir si bien animé.
Et bah, c'est avec plaisir en tout cas. Et on se retrouve pour un prochain colloque. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces programmes en replay sur nos antennes de Radio Immo et Radio Territoria. Merci de votre fidélité et à très vite. Salut.
Colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition.